Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes du 88.8 en FM, DAB+, et Web Radio. Voilà maintenant plus de 2 ans que la grenouille a le plaisir de suivre la venue à Aix et à Marseille des doctorales du Sud. Encore aujourd'hui, la grenouille continue ce beau compagnonnage, toujours à Marseille et ici à l'espace Bargemont. Après le succès des 2 premières éditions, Pépite Provence a le plaisir d'accueillir cette année l'étape marseillaise du Deep Tech Tour de la BPI. Une journée ouverte à toutes et tous et totalement gratuite. Un moment pour se questionner sur l'entrepreneuriat, les financements ou chercher à comprendre l'écosystème local. Les doctorants, jeunes chercheurs et chercheuses et porteurs et porteuses de projets sont à l'honneur ici aujourd'hui, avec près de 30 structures, entreprises et collectivités prêtes à conseiller, recruter, accompagner dans tous les parcours. La grenouille prend le parti d'orienter ce plateau sous la forme d'une série de speed dating. Le concept est simple, 10 minutes pour découvrir chaque invité et ES pour comprendre qui ils sont et ce qu'ils représentent. Vont s'enchaîner à notre micro Romain Lafont, vice-président d'Aix-Marseille Université et directeur de Pépite Provence. Suivra Gilbert Bougie, chargé de mission à Aix-Marseille Université et du projet doctorial du Sud où nous sommes aujourd'hui. Arthur Arazola, doctorant accompagné par Pépite Provence avec le projet Juris Intelligence prendra la suite. Elisabeth Gabor, représentante de BPI France, sera la suivante. Nous continuerons avec Caroline Dumont, PDG de l'incubateur Les Premières Sud, et nous finirons avec Sarah Bonnet, fondatrice d'une start-up issue de sa thèse et membre de Pépite Provence. Comme vous avez pu l'entendre à ce magnifique générique, cette émission est inscrite dans le cadre d'Univox, une émission Radio Campus, bien sûr. Avant tout ce beau programme chargé de speed dating et de rencontres, de ce beau panel, d'invités bien sûr, vous le savez, il est très très important de se chauffer les oreilles. Et pour ce faire, on commence avec du rock, quelque peu twisté, avec le titre « Miss You » des Rolling Stones. De retour sur les ondes du 88.8, ce format speed dating commence enfin et j'ai la chance, l'honneur, l'immense joie de recevoir face à moi Romain Lafont, vice-président d'Aix-Marseille Université et directeur de Pépite Provence. Bonjour Romain, comment allez-vous ?
Bonjour, et ça va super bien aujourd'hui.
Vous enchaînez les prises de micro, vous étiez juste en bas tout à l'heure, de quoi vous avez parlé d'ailleurs ?
Alors on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé d'accompagnement des jeunes, en particulier des jeunes doctorants et des jeunes docteurs donc, qui ont soutenu leur thèse. Vers l'entrepreneuriat, vers l'esprit d'entreprendre et puis plus largement aussi finalement vers l'insertion dans le monde économique. Puisque voilà, à l'université, bien entendu, on forme les jeunes, on transmet le savoir, mais on est aussi là pour les accompagner vers un boulot, vers un job.
Bien sûr. Dans votre présentation, je vous ai présenté en tant que directeur de Pépite Provence. Est-ce que, première question, on peut rappeler les grandes lignes des missions de Pépite Provence, qu'est-ce que c'est Pépite Provence aussi et leur importance pour ces jeunes étudiantes et étudiants et jeunes docteurs?
Ouais. Alors Pépite Provence, avant tout, c'est une chance, c'est une véritable chance. Et je le dis d'autant plus sereinement que moi, quand j'étais étudiant, j'aurais rêvé d'avoir un dispositif comme Pépite Provence pour m'accompagner, Pépite Provence, Pépite, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. C'est un dispositif en fait qui a été mis en place par le ministère en 2014. Il y a des pôles qui sont répartis sur tout le territoire en France, il y en a 32, hein, sur tout le territoire national. Il y en a deux dans la région sud, un sur Nice et un donc autour de Marseille et de sa métropole, le pôle Pépite Provence, qui accompagne tous les jeunes étudiants d'Aix-Marseille Université, de l'Université d'Avignon également, également de l'école centrale Méditerranée, de Sciences Po sur Aix, d'école des mines de Saint-Étienne à Gardanne et des arts et métiers, l'autre école d'ingénieurs d'Aix-en-Provence. Et en fait, on les accompagne autour de trois volets. La sensibilisation à ce que c'est que l'esprit d'entreprendre, la sensibilisation à l'entrepreneuriat. On les accompagne également à la formation, parce que finalement, entreprendre, créer son entreprise, ça s'apprend, c'est des compétences particulières. Et enfin, on les accompagne jusqu'à la création, souvent, de leur entreprise. Donc voilà, on est vraiment sur ces trois niveaux, sensibiliser, former et accompagner ces jeunes vers l'entrepreneuriat. On parle d'entrepreneuriat et on parle d'esprit d'entreprendre parce que finalement, la vocation pour nous, c'est pas qu'ils créent tous leur boîte. C'est pas ça l'idée. C'est plutôt de leur planter la petite graine. Oui, c'est possible d'innover, c'est possible de créer, c'est possible d'avoir l'esprit d'entreprendre. Ils vont parfois créer pendant leurs études, juste après ou peut-être plus tard dans la vie. Nous, on est juste là pour leur montrer que c'est possible et leur donner les clés pour y arriver.
Et ça fait combien de temps que Pépite exerce ce plantage, ce semage de graines dans le sud de la France ?
Alors, nous, dès 2014, en fait, ce pôle il a été créé ici. Donc, il a existé depuis 2015, vraiment, sur le site. Et au fil du temps, en fait, ce pôle a évolué, puisque en 2020, finalement, quand on a donné une nouvelle dynamique à ce pôle, il y a eu un gros travail au départ pour le créer parce que c'était nouveau, l'entrepreneur pour les étudiants, c'est pas naturel forcément. Étudier et entreprendre, c'est pas automatique, nous c'est vraiment ça notre baseline. Et en fait depuis 2020, finalement, on a essayé vraiment de changer la dynamique de ce pôle. Je vous donne juste quelques chiffres pour être super, super précis. En 2020, on avait 47 étudiants entrepreneurs, aujourd'hui on en a 300. Donc aujourd'hui, on sensibilise près de 30 000 étudiants à l'entrepreneuriat au travers de plein d'activités, dont l'activité et l'événement auquel on assiste aujourd'hui, qui sont les Doctorales du Sud. Donc c'est tout ça, et ça n'arrête pas de grandir et d'évoluer. Et on est sûr que dans les années futures, voilà, on va continuer à développer ce pôle-là.
Vous l'estimez comment cet impact de l'esprit entrepreneurial sur le parcours académique que peut avoir un étudiant, une étudiante, un docteur, un thésard, un doctorant ? Comment vous le voyez ?
Alors, ce parcours, finalement, ça vient en plus de leur parcours académique. C'est pour ça que nous, vraiment, moi j'ai tendance à répéter, étudier et entreprendre, c'est possible. C'est-à-dire que leur priorité, bien entendu, en tant qu'étudiant, c'est de réussir leur diplôme. Ça, c'est vraiment leur priorité. Par contre, ce parcours entrepreneurial, ce parcours autour de l'esprit d'entreprendre va leur amener d'autres compétences qu'ils ne développent pas forcément dans leur cursus académique classique. Donc, première chose, ça va vraiment leur amener des compétences complémentaires. Ça va leur permettre parfois aussi de s'ouvrir l'esprit à autre chose, parce que dans nos formations et dans notre parcours Pépite, on vient mixer tous les étudiants, par exemple d'Aix-Marseille Université, de toutes les composantes. Donc on va pouvoir un étudiant de droit qui va côtoyer un étudiant d'école d'ingénieur ou côtoyer un étudiant, par exemple, de la faculté d'éco-gestion et qui vont travailler ensemble, en fait, autour de projets communs. Donc voilà, ça va vraiment enrichir leur parcours académique. Ça va leur amener des compétences supplémentaires et surtout, ça va leur ouvrir l'esprit et leur montrer que c'est possible aussi d'entreprendre.
Et in fine, j'imagine que ça crée aussi une mixité sociale qui est importante à plein d'égards.
Exactement. Voilà, c'est cette notion, voilà, de brassage. Ce que j'appelle moi le brassage, c'est que vraiment, on va pouvoir réunir autour de projets communs, de formations communes, des étudiants qui ne se connaissaient pas, qui viennent de toutes parts, qui viennent de toute formation, de tout niveau, des L1 jusqu'au master et jusqu'au doctorant. L'événement aujourd'hui, par exemple, en est la preuve. Tous ces étudiants-là, finalement, vont se retrouver et on va se retrouver autour plutôt de projets communs, plutôt autour d'ambitions communes. Et surtout, ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est que ces étudiants, ils viennent nous rejoindre aussi parce qu'en fait, ils veulent donner du sens souvent à leur parcours, du sens à leur vie, tout simplement. Et ils sont engagés souvent sur des projets à impact sur le territoire. Et on va retrouver des étudiants de toute origine, de toute culture, de toute part, qui vont se retrouver autour d'enjeux communs, autour parfois des grands enjeux du territoire. Juste un chiffre, hein, 100% des étudiants qui créent leur boîte restent sur le territoire. Donc ça veut dire que les étudiants, ils créent leur boîte aujourd'hui pour avoir un impact sur le territoire, pour contribuer à l'avenir de ce territoire, au développement, et ils restent sur le territoire.
Vous parliez des doctorales du Sud, pardon. Comment les Pépites s'inscrivent dans ces doctorales ?
Alors, Pépite, en fait, est tout simplement à l'origine de ce dispositif parce que dans le programme de formation et d'accompagnement à l'entrepreneuriat, le public jeune docteur et doctorant n'était pas la première cible, si je peux le dire comme ça. Ce n'était pas le premier public visé. On s'est aperçu il y a 3 ans, et on a voulu vraiment il y a 3 ans contribuer à ça en se disant mais les doctorants aussi peuvent entreprendre, les doctorants aussi ont besoin de développer cet esprit d'entreprendre pour créer parfois leur boîte, et on a développé des programmes spécifiques. Et en développant des programmes spécifiques, on s'est dit mais pourquoi pas organiser un événement pour eux, pour ces doctorants, en fait, à destination de ce public-là, pour les mettre en relation avec tous les acteurs de l'innovation présents aujourd'hui. Et finalement, c'est une branche supplémentaire de l'activité du pôle Pépite Provence qui se tourne vers les doctorants et qui nous permet aussi d'associer plus largement, parce qu'on n'est pas les seuls à bosser avec les doctorants et accompagner les doctorants. Il y a bien entendu toutes les écoles doctorales de l'université et il y a tous les autres acteurs du territoire. Et finalement, ces Doctorales du Sud, c'est l'événement qui regroupe un petit peu et qui essaie de fédérer autour du sujet doctorant.
On en parlera aussi tout à l'heure avec notre autre invité, Elisabeth Gabor, mais ça s'inscrit dans le Deep Tech Tour aussi, ces Doctorales du Sud. C'est important de se lier avec une institution comme la BPI.
Oui. Oui, alors c'est surtout important de se lier à des événements qui ont une résonance nationale, qui ont une visibilité. Ça permet tout simplement de faire continuer à faire grandir l'événement. L'événement, il a vu le jour il y a trois ans, les Doctorales du Sud. Chaque année, on rajoute une composante supplémentaire. Chaque année, on rajoute de nouveaux partenaires. Mais là, on franchit une nouvelle étape en s'associant au Deep Tech Tour qui nous amène une composante qu'on n'avait pas par le passé, tout simplement.
Quel conseil vous donneriez à un étudiant ou un jeune docteur qui hésite encore à se lancer dans l'entrepreneuriat, qui a peut-être un projet en tête, qui n'a peut-être pas de projet en tête, mais qui souhaite se lancer?
Alors le conseil, il est simple, c'est toujours le même que je leur donne, c'est oser, innover, vous en êtes capable, étudier, entreprendre, c'est possible, oui c'est possible. Et que ce soit en effet de la simple idée, j'ai une vague idée, moi je me verrais bien lancer une boîte, mais je ne sais pas dans quoi, ou l'étudiant ou l'étudiante qui a déjà en fait son idée. En fait, ils vont trouver au sein de Pépite Provence tous les dispositifs en fonction de la maturité de leur projet. Donc le seul conseil qu'on peut leur donner, et vraiment c'est les encourager, c'est à se lancer. Ils n'ont rien à perdre en fait. C'est quelque chose qui vient en plus de leurs études, c'est que du bonheur. Il n'y a pas de diplôme qui à la fin va aller, c'est oui, non. Non, non. En fait, ils vont développer leurs propres compétences et chacun repartira avec ce qu'il a envie de repartir. Donc en fait, c'est que du plus.
Je voudrais qu'on reparle de cet accompagnement, mais avant, vous disiez en début de ce mini speed dating que vous, si à votre époque vous aviez eu cet accompagnement Pépite, vous y seriez lancé sur quoi comme projet? Est-ce que vous auriez eu un projet en tête?
Oui, alors moi je rêvais de faire du tourisme en fait. Je rêvais de monter une boîte de tourisme en fait. Je rêvais de monter un camping pour être tout à fait clair. Alors, et aujourd'hui, moi je suis ingénieur en microélectronique, donc rien à voir. J'ai fait des études en physique et dans la microélectronique, mais moi je rêvais d'être dans l'événementiel et dans le tourisme en particulier et dans l'animation. Et j'aurais aimé qu'on me donne la possibilité de réfléchir sur ce projet-là pendant mes études, de m'ouvrir les portes. Parce que notre rôle aussi en tant que Pépite, c'est de mettre en relation ces étudiants avec des professionnels du domaine. Nous, on n'est pas des professionnels de chacun des domaines des entreprises. Par contre, on va les mettre en relation avec des experts thématiques. Et c'est ça qui est aussi la richesse du dispositif, c'est qu'ils vont être, chaque étudiant va être suivi à la fois par des tuteurs académiques, mais également des tuteurs professionnels, en fonction du projet que l'étudiant a envie de développer.
Et alors, je suis étudiant à AMU, c'est quoi les conditions, même si j'aime pas trop ce terme, à remplir pour pouvoir prétendre à rentrer chez Pépite?
Alors, la première chose, c'est venir frapper à notre porte et tout simplement déposer un dossier de candidature. En fait, on appelle ça un dossier de candidature, mais c'est tout simplement un exposé de leur projet. Et on fait passer ce qu'on appelle des comités d'engagement, qui sont en fait des espèces d'entretiens, des mini-entretiens dans lesquels l'étudiant va nous exposer son projet. Et en fait, dans ces entretiens, nous, notre principal objectif, c'est de détecter le niveau de maturité. Est-ce que c'est qu'une idée ou est-ce que c'est déjà plus avancé? Et en fonction du niveau de maturité, on va l'orienter vers un de nos trois parcours. On a un parcours starter, un parcours booster et booster plus. Donc voilà, de l'idée jusqu'au quasiment au projet. Et en fait, on en recale très peu, finalement, parce que souvent, même s'ils n'ont que l'idée, on va les envoyer dans le starter, justement, pour qu'ils puissent mûrir, accompagner leur projet. Il nous arrive parfois d'avoir des étudiants qui viennent nous voir et qui, eux, pour l'instant, ne sont vraiment pas prêts et ont peut-être plus de besoin de temps pour mûrir leur projet d'esprit d'entreprendre. Et là, en fait, on leur dit de revenir l'année d'après, ils reviennent et on les prend avec nous. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de filtre.
Il n'y a pas d'échappatoire, on peut y passer quoi qu'il arrive.
Oui, bien sûr.
Une dernière question pour vous, c'est quoi le rôle des universités dans la promotion de l'entrepreneuriat? Je sais qu'on va un peu parler de la semaine créative dans cette question. C'est quoi ce rôle? Quelle importance des universités?
Alors, en fait, les universités, c'est avant tout le lieu où on crée le savoir. Les universités, c'est le lieu aussi où on diffuse le savoir. Mais les universités, c'est aussi le lieu où on accompagne vers l'insertion professionnelle. Voilà. On crée le savoir, on le diffuse, on forme nos étudiants. Mais l'objectif aussi derrière, c'est que ces étudiants, ils aient des jobs dans la vie. Et ils aient leur job à eux, qu'ils le créent eux-mêmes ou finalement qu'ils aillent se faire embaucher par telle ou telle boîte. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est un levier supplémentaire d'insertion professionnelle. En fait, et ça, on ne le sait pas assez. On n'a pas forcément l'idée, quand on est étudiant, de se dire, mais moi, pour trouver mon job, je vais déposer un CV. Tu peux déposer un CV, mais tu peux aussi créer ta boîte. Tu peux créer ton métier. Et ça, c'est possible. Et ça, voilà, les universités ont un vrai rôle pour accompagner les jeunes vers ça.
Et à le faire comprendre.
Et à le faire comprendre, bien sûr.
Est-ce qu'on parle un peu de la semaine créative, du coup ?
Alors, la semaine créative, c'est quoi ? La semaine créative, c'est chaque année, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche organise en fait une semaine dans laquelle on regroupe l'ensemble, ou si possible, un maximum d'événements en lien avec l'entrepreneuriat étudiant, porté la plupart du temps par les universités et les différents pôles pépites en France. Donc, c'est une semaine qui permet tout simplement de donner de la visibilité à tout ça. On fait vraiment un coup de projecteur pendant une semaine sur tous ces événements. Ça ne veut pas dire que le reste de l'année, il n'y a rien, au contraire. Mais ça nous permet, pendant une semaine, de faire une publicité supplémentaire auprès des jeunes, parce que le véritable enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est faire connaître ce type de dispositif auprès des jeunes. Beaucoup de jeunes ne savent pas qu'ils peuvent aussi étudier et entreprendre.
Romain, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette première phase de speed dating avec vous. Je le rappelle à tous les auditeurs, vous êtes vice-président d'Aix-Marseille Université et directeur de Pépites Provence. À très bientôt, peut-être sur les ondes de Grenouille.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Et on est de retour sur les ondes du 88.8, ces speed dating s'enchaînent mais ne se ressemblent pas, puisque la personne qui est en face de moi n'est plus Romain Lafond, mais bel et bien Gilbert Bougie, bonjour. Vous êtes chargé de mission Aix-Marseille Université du projet Doctorial du Sud, mais je sais que vous n'êtes pas que ça.
Je suis donc, comme je l'ai dit, professeur des universités, économiste de formation, spécialisé en entrepreneuriat. Et je dirige à Aix-Marseille Université un ensemble de diplômes allant du diplôme étudiant entrepreneur dans le cadre du dispositif Pépites Provence, allant jusqu'au Master 2, le Master 2 création d'entreprise que je dirige depuis 20 ans maintenant. Et depuis maintenant 2-3 ans, je m'implique dans les études doctorales de manière à pouvoir impliquer de plus en plus de chercheurs, des doctorants, dans des projets de création d'entreprise.
Comment se passe votre première rencontre avec Pépites ? Comment vous avez vent de ce projet d'accompagnement, vous ?
En fait, j'ai été à l'origine des premiers diplômes en création d'entreprise à Aix-Marseille Université. C'était en 2004. J'ai créé le premier diplôme. Et il faut savoir que le dispositif Pépites, qui est un dispositif ministériel, va naître 10 ans plus tard, en 2014. Et en fait, j'ai été partie prenante de ce projet. J'ai co-construit avec des collègues le dispositif Pépites Provence, qui s'appelait Pépites PACA Ouest à l'époque, et le nom a changé il y a quelques années. Et donc, naturellement, je me suis retrouvé impliqué dans ce projet Pépites, et surtout dans son évolution.
Tout à l'heure, je posais la question à Romain Lafond de l'importance du rôle des universités dans la promotion de l'entrepreneuriat. Il m'a très justement dit que c'était un lieu d'importance capitale pour proposer cette vision entrepreneuriale aux étudiants. J'imagine que vous allez aller dans ce même sens, mais peut-être que vous pouvez un peu compléter cette idée de l'importance de l'université.
Il faut savoir que lorsque j'ai débuté avec les premiers diplômes en entrepreneuriat, très peu d'étudiants étaient intéressés, très peu d'étudiants étaient tournés vers les projets entrepreneuriaux. Et on a vu à travers le temps des étudiants venir de plus en plus nombreux, non seulement dans une situation d'intérêt pour l'entrepreneuriat, mais surtout avec des idées d'affaires, avec des projets qui ont des impacts sur la société, sur la transformation de la société. Il faut savoir que l'université est un lieu de savoir, est un lieu de transmission de savoir, c'est un lieu de transmission de connaissances, et c'est tout naturellement que l'université s'intéresse à ce domaine cher aux économistes et aux gestionnaires, qui est l'entrepreneuriat. Nous enseignons l'entrepreneuriat, nous formons les étudiants à l'entrepreneuriat, nous accompagnons les étudiants dans leurs projets entrepreneuriaux, et on les accompagne durant, bien évidemment, leur cursus universitaire, mais nous essayons également de les accompagner au-delà de leur cursus universitaire à travers, par exemple, des projets de financement, mais également d'ouverture vers des réseaux au niveau national, au niveau international. Aix-Marseille Université, c'est beaucoup investi en entrepreneuriat, et je peux vous dire que c'est un projet qui aujourd'hui a vraiment réussi.
Aujourd'hui, on est ici présent pour les doctorales du Sud. C'est donc un événement très important. Qu'est-ce qui s'est passé cette matinée, ce début d'après-midi? Il y a eu des tables rondes. Comment vous avez vécu tout ça? Quel retour on peut déjà vous en avoir fait?
C'est une journée très riche. C'est une journée, j'ai envie de dire, de qualifier d'exceptionnelle. Cette rencontre entre l'univers de la recherche et l'univers de l'entrepreneuriat est une rencontre vraiment qui a une portée exceptionnelle pour la société. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que dans toute création d'entreprise, à l'origine, il y a une idée. Et cette idée n'est rien qu'une connaissance. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'université, c'est le lieu de la fabrication de ces connaissances. C'est le lieu où naissent ces connaissances, et ces connaissances, par la suite, sont naturellement transformées en des résultats tangibles. Et ces résultats tangibles ne sont que des produits et services qui vont être par la suite commercialisés par les porteurs de projets. J'ajouterai une chose très très importante qui fait la force aujourd'hui du dispositif Pépite Provence. Pépite Provence a su, durant ses 10-11 ans d'existence, se transformer. Qu'est-ce que j'entends par là? Se transformer, c'est-à-dire chercher à s'adapter en continu aux besoins de l'étudiant entrepreneur. Et vous m'avez interrogé sur cet événement, les doctorales. Nous nous sommes adaptés à cette population, à la demande de cette population d'étudiants qui est la population des étudiants en doctorat et inscrits en thèse de doctorat dans toute discipline. Et pour cela, Pépite Provence, évidemment, a mis au point des événements, et les doctorales aujourd'hui font partie de ces événements qui ont pour objectif de renforcer ce lien entre la recherche et l'entrepreneuriat. En début d'année 2025, ça sera la surprise, on va proposer d'autres événements dynamiques allant dans ce sens-là. Mais il faut également ajouter, les événements c'est très très bien, les challenges c'est très très bien, les business games c'est très très bien, mais la formation c'est très important, et Pépite Provence a su, à travers le temps, proposer des formations adaptées à cette population d'étudiants qui est les doctorants.
Romain Lafond nous disait qu'il y avait un starter, un booster et un booster plus, c'est un peu ça, donc c'est trois possibilités auxquelles les étudiants peuvent faire face et peuvent donc être adaptés sur ces modes d'accompagnement.
En fait, il y a des parcours que vous avez évoqués à l'instant avec M. Lafond. mais il y a également des diplômes à l'intérieur de ces parcours. Et lorsqu'on parle du Booster Plus, on parle d'un diplôme qui est le diplôme étudiant-entrepreneur niveau 2. Et au sein de ce diplôme étudiant-entrepreneur niveau 2 se trouve un atelier spécifique à cette population de doctorants. Et cet atelier s'intitule « Entreprendre en doctorat ». À cela, il faut s'ajouter que Pépite Provence propose des ateliers aux différentes écoles doctorales. Nous sommes actuellement en pleine phase d'accueil des nouveaux doctorants. Donc nous visitons à travers la direction des écoles doctorales, nous visitons les écoles doctorales afin de, entre guillemets, vendre ces ateliers auprès des étudiants en doctorat et surtout des étudiants qui commencent à peine leur thèse de doctorat.
Vous estimez qu'il y a plus ou moins de réticence à se lancer dans l'entrepreneuriat des doctorants à l'heure actuelle ?
Aujourd'hui, je ne
vous le J'aurais cache pu pas. Tourner ma question dans l'autre sens. Ouais. Est-ce qu'il y a plus d'acceptation ou moins d'acceptation aussi ?
En fait, il faut savoir qu'on est, en plein dans une phase de transformation de l'université. L'université se transforme. Alors, votre question est très intéressante. Alors, je ne sais pas si ce sont les transformations de l'université qui favorisent cette relation entre la recherche et l'entrepreneuriat, ou plutôt l'interaction qui se trouve entre la recherche et l'entrepreneuriat qui pousse à la transformation de l'université. Bon, il y a une relation certainement de cause à effet. Aujourd'hui, il demeure des obstacles qui empêchent ce rapprochement, des obstacles de différentes natures, de nature certainement institutionnelle, juridique, financière, de nature financière. Je pense par exemple au financement de l'université, l'organisation d'un budget universitaire, culturel à travers l'existence de l'entreprise dans l'université. Aujourd'hui, on a quand même certainement des collègues qui ne voient pas d'un bon œil la présence de l'université de l'entreprise dans l'université. Et si on parle d'entreprise dans l'université, on va certainement parler de profit, le rôle du profit, la rémunération, par exemple, des activités de recherche. Donc, ces obstacles existent. Et je pense aujourd'hui que ce rapprochement progressif qui existe entre les études en doctorat et l'entrepreneuriat parviendra à lever progressivement, en tout cas personnellement, j'ai confiance, à lever ces obstacles et à s'orienter vers un style d'université qu'on appelle aujourd'hui l'université entrepreneuriale, l'université dans laquelle se trouvent des incubateurs, l'université qui accueille des entreprises qui produisent et qui commercialisent au sein de l'université, moyennant, pourquoi pas, le paiement d'un loyer à l'université, ce qui d'ailleurs provoquera à terme un changement de mode de financement de l'entreprise de l'université. Bon, vous le savez mieux que moi, aujourd'hui, on parle beaucoup de budget en France, on parle de restrictions budgétaires sur l'année 2025 et l'université est directement visée. Bref, voilà, je ne veux pas aller plus loin dans l'explication, mais à travers cette relation qui existe entre l'entreprise et la recherche, je vois une relation gagnant-gagnant à terme.
Allez, j'ai une dernière question pour vous, Gilbert, qui est assez ouverte cette fois-ci. Un conseil que vous donneriez à un étudiant ou une étudiante, doctorante, chercheur, chercheuse, qui souhaite se lancer dans ce côté entrepreneurial, mais qui n'ose pas encore sauter le pas ?
Il faut venir, le premier conseil, vous rigolez, exactement, il faut venir à la rencontre du dispositif Pépite. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que le dispositif Pépite au sein d'Aix-Marseille Université, il y a également, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a par exemple la CISAM, la Cité d'innovation de savoir d'Aix-Marseille Université. Donc Aix-Marseille Université a su mettre en place des institutions qui sont capables d'encadrer ce type de population. Mais j'ai envie de dire que la vraie décision provient du doctorant, de l'étudiant, et l'impulsion, l'incitation peut également provenir du directeur de recherche, mais également de l'école doctorale. Donc il faut que nous tous, enseignants-chercheurs, nous puissions donc aller dans ce sens, c'est-à-dire donner envie à l'étudiant en thèse d'aller vers la création d'entreprise, parce qu'après tout, la création d'entreprise représente une porte de sortie pour tout étudiant qui n'arrivera pas à intégrer la fonction publique et à devenir enseignant-chercheur. Je me permets de vous donner quelques statistiques. Aujourd'hui, sur 14 000 thèses de doctorat soutenues par an en France, on n'a que 10% de transformation dans la fonction publique et sur le poste d'enseignant-chercheur. Donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat est vraiment la voie qui permet donc à l'étudiant en thèse de trouver un job plus tard. Mais je dirais qu'au minimum, le doctorant qui va vers l'entrepreneuriat, ben, il va acquérir des compétences humaines, de leadership, de chef d'entreprise qui vont lui permettre d'intégrer plus facilement le marché du travail.
Gilbert, merci beaucoup pour ces mots. À très bientôt sur les ondes de Grenouille, j'espère.
Merci à vous et merci pour la confiance que vous nous faites.
C'est un plaisir. Toujours sur les ondes du 88.8, toujours ici à l'espace Bargemont, les invités s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Je l'ai déjà dit un peu avant, mais c'est pas bien grave parce que c'est très important de préciser que ces invités ne se ressemblent pas, puisque nous avons la chance d'avoir un doctorant qui est passé par Pépite, juste en face de moi-même, Arthur Arazzola. Bonjour, je n'ai pas écorché ton nom de famille.
Absolument pas, bonjour.
C'est génial. Donc toi, tu as été accompagné par Pépite et tu as créé ta start-up, ton entreprise, ton projet qui s'appelle Juris Intelligence. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus.
Oui, bien sûr. Alors ce projet, je l'ai effectué avec mon associé qui s'appelle Daniel Labelle. Et ça consiste en fait à améliorer et à accélérer le traitement des données pour les professionnels du droit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on travaille le droit, on a besoin d'accéder à de grosses bases de données, notamment des jurisprudences, donc des décisions de justice, qui vont ensuite nous permettre de régler un certain nombre de cas, de problématiques juridiques et donc de répondre aux clients. Et ces bases de données, elles existent dans le monde entier, donc en France, on en a pas mal, on en a des grosses, par exemple Dalloz, LexisNexis, Lextenso, Lexbase, etc. Mais il y a certaines régions du monde où ce modèle n'existe pas, et c'est notamment le cas de l'Afrique francophone. De manière générale, tous les pays qui font partie du système OADA, donc c'est 17 pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la RDC, etc. Et l'idée qu'on a eue, c'est donc de développer ce modèle-là, donc ces bases de données et l'accès à ce type de bases de données pour tous les professionnels du droit qui sont là-bas, pour que d'une certaine manière ils aient les mêmes outils qu'on peut avoir notamment chez nous, mais de manière générale un peu dans le monde entier.
Avant de parler de ton accompagnement par Pépite, il y a quelque chose qui m'intrigue du coup dans tout ce projet. Quid de la cybersécurité du coup de tout ça, parce que j'imagine que c'est beaucoup de données sensibles. Comment vous avez travaillé sur cette question-là?
Alors oui, effectivement, il y a ces difficultés-là, et puis il y a aussi des difficultés qui sont liées à la géopolitique, parce que nous, on est situé en France, mais il y a pas mal de pays, notamment avec lesquels on travaille, qui ont parfois une inquiétude puisqu'on est situé dans un autre pays. Donc c'est des problèmes qui se posent lorsqu'on va négocier avec les ministères pour leur proposer cette solution. Et généralement, ça va se jouer sur du contrat, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le cloud soit situé dans le pays cible pour qu'ils aient le contrôle de la donnée et justement qu'ils gèrent de leur côté l'aspect cybersécurité pour pas qu'il y ait de soucis et de problèmes de souveraineté à ce niveau-là.
Comment tu rentres chez Pépite? Qu'est-ce qui t'attire le regard? Qu'est-ce qui te fait rentrer dans une de ces formations?
Eh bien, en fait, on avait une formation évidemment en droit, mais ensuite sur tout ce qui est relatif à l'entrepreneuriat, donc notamment la gestion de la comptabilité, avoir une vision sur le long terme pour un projet, toutes ces choses-là, c'est vrai qu'on avait, on avait évidemment des lacunes, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on se forme à ce niveau-là et qu'on soit accompagné. Et c'est là évidemment qu'on a trouvé Pépite, qui est très bien implantée et qui offre un très bel accompagnement. Donc on a suivi la première année, et là on est en deuxième année pour approfondir ce processus.
En booster plus du coup, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Comment Pépite vous a aidé un peu à clarifier, à structurer votre projet ? Quel bout vous aviez et quel bout vous manquiez ?
Ce qu'on avait, c'est évidemment, on a de la chance tous les deux parce qu'on a une spécialité en droit des affaires, donc tout ce qui est relatif au statut de société, etc., tout l'accompagnement juridique, on a la capacité de le faire nous-mêmes. Mais de nouveau, le passage d'une certaine manière au monde universitaire et à la confrontation au marché, comprendre que quand on apporte de la valeur, c'est pas gratuitement comme on a l'habitude de le faire en fait dans le monde universitaire, ou en tout cas il y a un grand aspect où on n'attend pas quelque chose derrière. Donc déjà cet aspect là de comprendre comment ensuite négocier avec d'autres personnes, savoir que ce qu'on propose a une vraie valeur et peut être un vrai atout. Au-delà de ça, évidemment, la partie, comme je vous le disais, la partie gestion, comptabilité, aussi management, beaucoup de management, parce qu'on travaille avec des équipes qui sont sur place et c'est d'autant plus compliqué que c'est à distance, et donc on avait besoin aussi d'une formation sur ça. Et de l'autre côté, ce qui était très agréable avec cette formation, c'est qu'il y avait une vraie accessibilité avec les formateurs. Donc on a eu des rendez-vous avec eux qu'ils ont pris vraiment sur leur temps personnel. On est allé boire des cafés, on est allé au restaurant pour discuter de tout ça, poser sur le papier des difficultés qu'on avait, parce que c'est des difficultés auxquelles on pense pas, et puis on tombe dessus et au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que cet accompagnement était très précieux.
Justement, quelles difficultés type vous avez rencontrées ? Peut-être que j'imagine que d'autres étudiants entrepreneurs ont pu rencontrer. C'est quoi, peut-être pas la plus grosse, mais une des plus grandes difficultés ?
L'une des plus grosses, c'était justement sur la gestion des équipes qu'on a sur place, parce qu'on on travaille avec 17 pays différents qui ont chacun leur culture, une culture particulière, une manière de travailler qui est différente. Et c'était vraiment sur toute l'organisation de comment on réussit d'une certaine manière à gérer tout le monde, à avoir une organisation sur l'agenda, etc. etc. Donc toutes ces choses-là, c'était en fait des petits tips en fait, qui comme ça, on se dit oui, bah, effectivement, c'est la chose la plus logique. Mais quand on est dedans, avoir une personne qui est déjà passée par là et qui nous dit, bah, en fait, utilisez cet outil-là pour gérer l'agenda, comme ça toutes les équipes le voient en même temps. Des petits conseils comme ça qui sont vraiment hyper utiles. Donc ça nous a beaucoup aidé à ce niveau-là.
Comment on gère ses études, sa start-up, des personnes avec qui on travaille du coup ? J'imagine que ça doit être très compliqué de jongler entre tout ça, mentalement parlant. Je pense à peut-être à votre santé mentale. Comment on maintient le cap avec des difficultés comme celle-ci et une charge morale et aussi physique qui est aussi grosse que celle-ci ?
En fait, il y a aussi un avantage, je le vois plutôt comme un avantage, c'est que la thèse, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le long terme, d'autant plus dans ma discipline qui est le droit, où généralement ça dure entre 4 et 5 ans, une thèse en droit, donc c'est très long et l'aboutissement, on le voit qu'à la fin. Alors que là, on a des réussites qui se font au fur et à mesure du temps, des petits accomplissements qui permettent justement à ce que la santé mentale en soit améliorée. Et au-delà de ça, l'avantage que j'y vois, c'est que bon, moi, je suis passionné par le projet que je porte et ça me permet de faire des coupures justement avec la thèse, parce que la thèse, c'est aussi une réflexion qui est en interne, qui se fait beaucoup en bac d'une certaine manière, dans le fond. Et ça permet d'avoir cet autre projet, de réfléchir à certaines choses. Et puis ensuite, il y a un petit peu le déclic, là, le eureka qu'on voit dans les bandes dessinées, qui se fait automatiquement et on a tout de suite une idée sur la thèse. Et donc les deux, en fait, colle très bien. Maintenant, effectivement, ça demande beaucoup de temps, en tout cas consacré. Je dirais pas de travail, parce que pour moi, c'est vraiment un vrai plaisir de mener ce projet-là. Mais ça prend du temps, ça c'est certain. Il faut aimer prendre ce temps pour ça.
Je me rends compte que j'ai mal fait mon travail de journaliste en m'étant de vous demander la genèse de l'histoire, d'où ça vient. Vous nous parlez de cette rencontre avec cet associé, ce collègue. Mais c'est quoi la genèse ? C'était une idée personnelle ? C'est une idée duo ? C'était une idée extérieure que vous avez travaillé, ça s'est passé comment ?
Alors, ça s'est passé, on était à un restaurant avec l'un de nos professeurs en droit et on avait discuté de ça, et notamment qu'il était allé à une conférence qui portait sur le droit au WADA, et il nous a expliqué qu'il y avait beaucoup de manques et qu'en fait, ils se basaient sur de la jurisprudence française, donc des décisions de justice française parfois pour gérer leur cas et illustrer un certain nombre de choses. Et c'est en fait à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il y avait un vrai manque à ce niveau-là, et qu'il y avait quelque chose sur lequel on pouvait pallier. On s'est aperçu qu'il y avait notamment ces problématiques-là en Algérie, au Maroc et en Tunisie, et qu'il y a quelques années, déjà des personnes ont commencé à faire le travail pour ces pays-là, mais personne n'avait véritablement commencé à le faire pour ces pays de l'OADA. Donc on s'est lancé sur ça pour apporter ces solutions-là.
Et le nom en a découlé, j'imagine, très simplement derrière, parce que Juris Intelligence, Juris je l'ai, mais Intelligence pourquoi ?
Parce que dans cette initiative, on va mettre évidemment de l'intelligence artificielle dessus pour être vraiment à la pointe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de données lorsqu'on parle de jurisprudence. C'est des centaines de milliers de jurisprudence. Et pour accélérer d'une certaine manière le travail de recherche pour écrire des conclusions, donc les conclusions, c'est ce qu'on va rendre aux magistrats, ou pour régler des dossiers quand on est juriste d'entreprise, avoir cette intelligence artificielle qui va aller chercher dans cette base de données pour répondre au mieux et avoir déjà une idée des corrélations qu'il pourrait y avoir entre la problématique et la jurisprudence en question qu'on pourrait utiliser, ça accélère énormément le travail du juriste. Donc voilà, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans.
Et alors, est-ce que vous, quand vous avez commencé vos études, peut-être en licence, en master et après en arrivant en thèse, vous disiez à un moment, je vais devenir entrepreneur, je vais avoir un parcours entrepreneurial, ou est-ce que c'était quelque chose que vous n'envisagiez même pas ?
C'est pas venu tout de suite, mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé cette forme de liberté qu'apporte la recherche et qu'apporte également l'entrepreneuriat. Donc je pense que c'est plutôt une réponse à mon besoin de liberté que j'ai entrepris en fait à ce niveau-là. Et de la même manière que j'ai commencé à faire de la recherche, parce qu'on est très très libre en fait de porter nos recherches comme on l'entend. Il y a beaucoup moins que ce qu'on pourrait avoir dans une entreprise. C'est justement l'avantage aussi qu'on a en France avec la recherche et tout ce qui nous est offert à côté, notamment en termes d'infrastructure. Donc on est vraiment très gâtés à ce niveau-là et c'est pour ces raisons-là.
Tout à l'heure, Gilbert et Romain donc Lafond nous disaient que c'était l'importance de l'entrepreneuriat dans l'université était devenue un enjeu majeur. Je pense que vous allez dans ce même sens-là, du coup, au vu de votre expérience et de votre témoignage.
Tout à fait. Et il avait donné une statistique tout à l'heure quand on était à la conférence où il disait qu'il y avait 1,5% des doctorants qui finissaient chefs d'entreprise. Et je pense que si on le réduisait aux sciences sociales, économiques et les sciences juridiques, il y en a encore moins, que ça s'applique plutôt aux sciences dures, donc aux scientifiques qui travaillent en pharmacie, en biologie, etc., et beaucoup moins chez nous, alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'opportunités et il y a beaucoup de valeurs en fait, à apporter sur ce terrain-là. Et je sais que quand on fait de la recherche, ou en tout cas tous mes collègues, je sais que c'est pour apporter en fait, de la valeur, pour enseigner également, donc pour donner aux gens. Et il y a d'autres manières d'apporter en fait, et de changer les choses. C'est de passer par cette voie de l'entrepreneuriat parce que ça permet vraiment de créer de belles choses. Et malheureusement, encore à l'université, il y a une petite tension à ce niveau-là, à savoir que est-ce qu'on est légitime à entreprendre et toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'en plus, l'idée, c'est quand même qu'on ait une expertise et qu'on soit pointu sur un sujet. Donc autant en faire profiter au maximum tout le monde.
Est-ce qu'on doit lutter contre c'est un peu cru dit comme ça, mais un syndrome de l'imposteur quand on est jeune étudiant, entrepreneur face à des chefs d'entreprise qui vont aller vers les mêmes idées de développement que vous? Est-ce qu'il y a une combativité, j'imagine, qui est plus grande du coup, mais est-ce qu'il y a ce syndrome un peu de se dire « bon, j'ai peut-être pas ma place parce que je suis que étudiant », entre guillemets?
Mais très, très fort, d'autant parce que évidemment on est jeune, mais au-delà de ça, quand on fait un doctorat, de la même manière, c'est quand même d'une certaine manière qu'on a quelque chose à prouver, qu'on veut démontrer qu'on a une capacité à résoudre un problème qui est particulièrement difficile. Donc ce syndrome de l'imposteur, je pense que tous les chercheurs l'ont eu au moins et qu'on a vraiment cette envie de démontrer aux gens qu'on est capable de faire un certain nombre de choses. Donc évidemment ça relève de la psychologie de chacun, mais dans mon cas j'en suis tout à fait conscient. Si j'ai fait de la recherche, c'est aussi parce que j'ai besoin d'une certaine reconnaissance à ce niveau-là et donc dans l'entreprise, à la différence, c'est que là pour le coup, si on veut convaincre des gens de faire des partenariats avec nous et de travailler ensemble, il faut être beaucoup plus confiant et beaucoup plus direct d'une certaine manière.
Pardon, excusez-moi Arthur, j'ai une dernière question pour vous. Merci déjà de ce témoignage et de cette dernière réponse qui est à mes yeux très importante. Un conseil que vous auriez aimé recevoir à l'époque quand vous vous lancez dans cette aventure entrepreneuriale, que ce soit d'un mentor, d'une mentor ou même simplement d'un ami de classe ou de la famille, ça serait quoi ?
Eh ben, très simplement, en fait, quand on fait une thèse, d'autant plus, c'est quand on fait une thèse, il faut qu'elle soit parfaite à la fin. Ou en tout cas, c'est l'idée qu'on a besoin de cette perfection-là. C'est vraiment ce qu'on recherche. Une thèse n'est finalement jamais parfaite, mais c'est vraiment l'idée qu'on en a. Et je pense que beaucoup de personnes qui ne font pas forcément de thèse, mais de manière générale, un peu tout le monde, ont cette recherche de se dire, si je lance un projet, il faut que tout soit prêt, tout soit calé, que j'ai le financement, que j'ai l'idée, qu'elle soit OK, que déjà le marché existe et toutes ces choses-là. Alors qu'en réalité, je pense qu'il faut simplement se lancer, essayer quand on a une idée et puis on va se prendre des claques, mais parfois, on se prend une claque et puis derrière, il y a une personne qui nous parle. On a une nouvelle idée et c'est vraiment comme ça qu'on avance. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est justement « Quand un idiot marche, il va toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. » Et je pense qu'il faut vraiment suivre cette logique-là.
Comment on peut retrouver Juris Intelligence, peut-être pas forcément sur les réseaux sociaux, mais sur un site, peut-être que vous allez faire des apparitions publiques, est-ce qu'il y a un peu des nouvelles qui vont arriver?
On a effectivement un site, on a aussi des pages LinkedIn, on a des pages Facebook, parce que on a aussi un groupe WhatsApp, parce que ça fonctionne très bien, et c'est des réseaux de communication qu'il y a beaucoup dans les pays dans lesquels on travaille. Et de manière générale, on a des revues scientifiques, c'est-à-dire des articles qui vont être écrits, qui sortent tous les 3 mois, voire maintenant tous les 2 mois. On a des podcasts également qui sortent. Donc tout ça, c'est sur nos réseaux. On a aussi des formations qu'on fait, également des conférences qui sont gratuites avec beaucoup de professeurs, justement aussi dans l'idée de vulgariser et démocratiser l'accès à la connaissance juridique dans ces pays-là, parce qu'on a beaucoup moins là-bas que chez nous. Donc on essaie de créer toute cette initiative donc sur notre site internet tout simplement et sur notre LinkedIn qui est la page la plus active.
Super, et bah chers auditeuristes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Arthur, moi je vous remercie encore une fois de votre présence sur ce plateau aujourd'hui et à très bientôt sur les ondes de la Grenouille.
Merci beaucoup.
Magnifique virgule me fait rappeler que je dois vous dire que nous sommes aussi sur Radio Campus puisque Radio Grenouille est aussi Radio Campus et nous enregistrons cette émission à l'occasion de l'émission Univox et nous sommes toujours en direct des Doctorales du Sud et Caroline Dumont qui est la DG des Premières Sud, donc ça fait beaucoup de Sud, ça fait beaucoup de radio, nous a rejoint pour nous dire un peu qui elle est déjà et pourquoi elle est présente ici aujourd'hui. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien.
Vous avez fait un peu de micro juste avant, donc je pense que vos cordes vocales sont échauffées.
Voilà, c'est échauffé.
Ça va. Alors les Premières Sud, c'est quoi?
Alors les Premières Sud, c'est un incubateur qui est issu d'une fédération qui est née il y a une vingtaine d'années, du constat que peu de femmes se lançaient dans l'entrepreneuriat, que celles qui se lançaient étaient toujours très concentrées dans des secteurs très particuliers, notamment tout ce qui tourne autour du care, c'est-à-dire du soin de manière générale, qu'elles étaient du coup très peu présentes dans des domaines plus technologiques, plus industriels. Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième, qui est malheureusement toujours vrai, c'est que les entreprises qu'elles créent se développent moins vite, moins fort que celles qui sont fondées par des hommes et des équipes mixtes. Donc aujourd'hui, les statistiques, 20 ans plus tard, ont évolué, mais c'est quand même pas encore très brillant, parce qu'il n'y a que 32% des entrepreneurs qui sont des femmes aujourd'hui, au moment de la création. Et puis après, il y a une espèce d'étape à 9 salariés, où elles sont que 12%. Donc là, déjà, où sont passés les 20%? C'est une première bonne question. Puis après, quand on passe au stade entre TPE et PME à 25 salariés, on tombe à 8. Donc on voit bien qu'il y a quand même une érosion importante qui se passe entre la création et le développement. Et puis que déjà, en création, on part déjà avec un handicap.
Et alors, comment dans votre incubateur, on va contrer ça, si je peux dire ça comme ça?
Alors, il y a différents axes qui vont être travaillés. Le premier axe, c'est que ce qu'on constate, c'est que les femmes se sentent souvent assez peu légitimes dans ce qu'elles entreprennent. Alors, c'est sûr que nous, notre leitmotiv, c'est on ne naît pas entrepreneur, on le devient. La mobilité d'entrepreneur, ça s'apprend. Évidemment, on n'est pas là pour faire un bac plus 5 dans tous les domaines qu'il va falloir agréer, parce que sinon, on entreprendra dans 50 ans et l'étude de marché sera plus bonne.
Mais,
on va la refaire. Mais en tout cas, on est là pour apporter une formation vraiment très pragmatique, pratico-pratique et centrée sur le projet, de manière à ce qu'elles se sentent plus légitimes à entreprendre, même dans des domaines qui ne leur en sont pas familiers. Alors, notamment, il y a tout ce qui tourne autour du financier. Ça, c'est assez, ça reste encore assez vrai, alors que finalement, prévisionnel, c'est des additions, des soustractions, quelques multiplications, parfois un pourcentage. Bref, c'est niveau CM1. Il n'y a pas vraiment de difficulté, mais c'est cette barrière de prise en compte et de poser son modèle, mais également de le poser dans le temps et de se dire, en fait, ma boîte aujourd'hui, quand je la crée, elle est comme ça et je me projette dans 3 ans et dans 5 ans dans un modèle qui va être ambitieux, c'est compliqué. Voilà, donc nous, on va travailler là-dessus. Après, on va évidemment beaucoup travailler la posture entrepreneuriale. Alors, évidemment, c'est valable pour tout le monde. Quand on sort du salariat, on n'a pas une posture d'entrepreneur. Et puis, le projet entrepreneurial que l'on mène, il y a sûrement 7000 personnes dans le monde qui ont eu exactement la même idée que vous au même moment. Donc, ce qui va faire la différence, c'est vraiment la façon dont vous allez le mettre en œuvre. Donc, évidemment, la façon dont ça va être mis en œuvre, ça repose sur ce qu'est le fondateur ou la fondatrice. Et donc, il faut travailler la posture entrepreneuriale pour pouvoir se projeter, avoir une vision, gagner en efficacité, leader son projet, entraîner les gens autour de soi. Voilà. Donc, la posture est très importante. Le troisième pilier sur lequel on va travailler, c'est l'écosystème. Parce que quand on arrive du salariat ou de l'école, quand on est un ancien étudiant, c'est pas facile de s'y retrouver dans le milieu entrepreneurial. Il y a pléthore de structures, pléthore de financements, ça bouge tout le temps. Il y a des codes, des réglementations. Enfin voilà. Et donc, les structures d'accompagnement, elles sont là de manière générale pour faire gagner du temps aux entrepreneurs pour qu'ils réussissent. Et donc, nous, on va venir mettre un écosystème qui, en plus de faire gagner du temps, va aussi avoir un œil bienveillant vis-à-vis de l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, notamment dans les financements, on voit bien que les femmes lèvent 2,3 fois moins que les hommes. Comment ça se fait ? Souvent, c'est parce qu'en face, ce sont des hommes avec des codes qui vont être différents.
C'était une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on n'a pas un besoin aussi de casser cette image de l'entrepreneuriat très masculin, patriarcal, qui est une vision, à mes yeux, désuète, mais qui a été retranscrit aussi beaucoup dans tout ce qui est cinéma, dans tout ce qui est littérature. On n'a pas peut-être besoin aussi de casser ça et de dire non, c'est pas une normalité.
Oui, alors ça, c'était mon quatrième pilier. Le quatrième pilier, c'est évidemment les rôles modèles. Aujourd'hui, l'image de l'entrepreneur idéal, c'est Elon Musk, c'est des mecs comme ça. Et ce sont des mecs. Donc, c'est très difficile de trouver des modèles entrepreneuriaux féminins et qui, en plus, assument le fait qu'elles veulent gagner de l'argent. Moi, 90% des femmes qui viennent me voir, elles viennent me voir pour changer le monde, pas pour gagner de l'argent. Or, un projet entrepreneurial, c'est pas un modèle associatif, c'est un modèle qui doit gagner de l'argent pour que la femme qui entreprend puisse avoir une indépendance économique, ce qui est extrêmement important, mais également qu'elle puisse créer de l'emploi et que cet emploi il puisse perdurer dans le temps parce que le modèle économique il est viable et qui va permettre d'alimenter effectivement tous les gens qui vont être dessous. Donc le modèle entrepreneurial, c'est important. Et nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir une nouvelle présidente qui est Kelly Massol. Kelly Massol, c'est une belle entrepreneur qui est partie dans des produits pour les cheveux texturés, qui était écologique. Voilà, donc déjà, il y avait une innovation au départ parce qu'elle a été chercher des formulations qui abîmaient pas les cheveux et qui étaient non dangereuses. Et en plus, derrière, elle en a fait un modèle économique à succès. Donc, je trouve que ça, c'est chouette parce que ça donne une belle inspiration, justement, d'une femme qui, aujourd'hui, passe à la télé, qui distribue son argent à qui veut être mon associé. Voilà, ça donne cette image qui est parfois difficile à faire coller avec l'entrepreneuriat pour les femmes.
Deux questions avant qu'on se quitte. La première, c'est... Vous êtes présente ici aujourd'hui pour les doctorales du Sud. Est-ce qu'on ne vient pas un peu chercher les entrepreneuses du futur au berceau ?
Alors, la première chose, c'est que moi, je suis ingé de formation, oui. Donc j'adore les projets technologiques et je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de projets technologiques portés par les femmes. Donc voilà, si on peut, si je peux donner quelques envies et susciter quelques vocations, ça, c'est chouette. Après, oui, évidemment, ça se joue très tôt. Je dirais même que ça se joue bien avant, finalement, le doctorat, mm-hmm. puisqu'on voit aujourd'hui que même en terminale, quand on voit les choix d'orientation, il y a encore trop de filles qui s'orientent vers les métiers, vers les études scientifiques. Et ça, il faudrait vraiment arriver à casser également ces modèles-là où les filles vont aller dans les matières littéraires ou économiques et que les garçons vont aller dans les matières scientifiques. Donc oui, ça se joue très tôt. Et là, on a tous notre responsabilité pour éduquer nos enfants, justement, en cassant ces barrières-là, en arrêtant de dire que le rose, c'est pour les filles, le bleu, c'est pour les garçons, que les filles seront princesses et que les garçons seront chefs d'entreprise. Oui. Voilà. Donc, il y a tout un tas de choses, en fait, à faire bouger. Donc, nous, on les attrape au plus tôt que l'on peut, parce qu'on est centré sur l'entrepreneuriat. Mais il y a évidemment aussi tout un tas d'autres acteurs. Et nous tous, en tant que parents, on est acteurs de la population l'avenir et de l'équité et de l'égalité. Parce que ce qui est très important, c'est vraiment cette mixité. C'est cette mixité qui est riche et c'est ça qui fait grandir. On a des modes de fonctionnement qui sont différents. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de les confronter. Et nous, on le voit, les équipes mixtes performent énormément. Parce que justement, c'est des points de vue qui vont s'affronter, des façons de faire qui vont être complémentaires. Et donc, c'est ça qui va faire réussir la boîte.
Une dernière question avant qu'on se quitte. Que j'ai posé aussi aux invités précédents, puisque c'était que des hommes. c'est quoi un conseil que vous donneriez à une jeune ou à un jeune qui veut se lancer tout simplement dans l'entrepreneuriat, qu'il ait 14 ans ou qu'il ait même 30 ans passé ou même plus, parce qu'on reste jeune dans notre tête jusqu'à très longtemps, ça serait quoi ce conseil ?
Alors, le conseil, je dirais que c'est... Alors, je ne vais pas vous dire le oser, parce que j'en ai marre de l'entendre.
C'est un classique, qui fonctionne.
Voilà. Moi, je dirais que le conseil number one pour faire réussir un projet entrepreneurial, c'est de démarrer la commercialisation le plus vite possible. Parce que quand on démarre, on est à côté du marché. Et donc, il va falloir rentrer dedans. Et ça, quoi qu'on fasse, ça va être très long. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que les projets attendent toujours la dernière minute pour se commercialiser parce que c'est jamais parfait, c'est jamais exactement comme ils voudraient. Il faut se mettre en marche tout de suite, aller tester son marché tout de suite, faire des enquêtes de terrain vraiment appliquées, sortir de derrière son ordinateur, poser des questions aux gens et commencer finalement cette commercialisation très tôt. C'est ça qui fait la clé du succès parce qu'on vous parle tout le temps de levée de fonds. Les levées de fonds, en fait, on s'en fout. C'est pas ça qui fait gagner l'entreprise et qui la fait perdurer. Le seul vrai argent, c'est celui de vos clients.
Vous l'aurez entendu sur Radio Grenouille, c'est génial. Caroline Dumont, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes DG des Premières du Sud, Premières Sud, pardon. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous sur ce plateau en direct de l'Espace Bargemont. À très bientôt, peut-être.
Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Toujours sur Radio Grenouille, toujours ici à l'espace Bargemont, toujours pour parler d'entrepreneuriat et d'étudiants. Elisabeth Gabor, qui est chargée d'affaires chez BPI France, m'a rejoint. Alors on a fait une petite révision de fiches avant d'attaquer. On s'est dit que vous alliez nous parler de votre présence ici aujourd'hui. Pourquoi la BPI, le Deep Tech Tour, et qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que nous, on était donc, si vous visualisez un peu l'espace Bargemont, nous étions sur la mezzanine, la terrasse, et nous surplombions la grande scène, et on a pu vous voir animer à deux reprises des échanges. Quels étaient ces échanges ?
Merci pour l'invitation sur une radio, c'est ma première fois, donc ça fait tout drôle. En fait, aujourd'hui, c'était les doctorales du Sud qui invitent le Deep Tech Tour de BPI France. Et en fait, le Deep Tech Tour de BPI France, là, c'était une étape, c'était l'étape de Marseille. Et il faut savoir que c'est au moins une trentaine en fait, de dates partout en France, où finalement, c'est vraiment BPI France qui vient faire de la sensibilisation auprès des étudiants, des doctorants, des jeunes docteurs et des chercheurs autour de l'entrepreneuriat, autour du monde de la deep tech. Alors, on parle beaucoup de deep tech chez nous.
Oui, c'est un peu un gros mot, voilà, deep tech, parfois, ouais. Quand même. Et comment on définit deep tech ?
En fait, pour nous, c'est tout ce qui va avoir des verrous technologiques forts et qui vont avoir un lien fort avec la recherche. Voilà, le but, c'est quand même de mettre aussi en valeur tous les actifs ou tout le travail en fait, qui sort de la recherche académique. Après, on peut parler de deep tech sur des projets qui ne sortent pas forcément de la recherche, mais on a toujours un point commun, c'est un verrou technofort, une entrée sur le marché quand même assez lointaine. Ça veut dire beaucoup de développement de R&D pour arriver sur le marché. Et souvent, dans ces cas-là, en fait, finalement, on a besoin de briques, de techno ou de savoir-faire qui peuvent être dans les laboratoires. Et c'est pour ça que nous, là, on parle de deep tech.
Et c'est pour ça aussi, j'imagine, l'importance de se rapprocher des étudiants et des étudiantes, des doctorants, d'aller chercher à la racine, quoi, en fait.
En fait, en 2019, le plan a été lancé et ils ont embarqué les universités en 2023 avec les pôles universitaires d'innovation, parce que le but, c'est vraiment de créer plus de start-up deep tech, pardon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a besoin d'avoir des technologies fortes en France, qui sont développées en France, et d'aller jusqu'à leur industrialisation. Donc, c'est vraiment tout le plan en fait, qui émane de plusieurs années de construction autour des pays A4, des France 2030. Je ne sais pas si jamais ces mots-là vous parlent, mais c'est en fait les plans d'investissement en fait, qui sont lancés par le gouvernement initialement, et en fait, qu'on vient opérer finalement sur le terrain pour déployer cette stratégie d'investissement. Donc nous, on est là sur le terrain pour accompagner et pour faire émerger plus de start-up deep tech pour qu'on ait des technologies sur notre territoire, pour qu'on aille jusqu'à leur industrialisation. Et on parle vraiment d'émergence et on veut plus de ce type de projet, plus d'étudiants ou de chercheurs qui sont enclins à aller vers l'entrepreneuriat pour aller développer ces projets.
Et donc ce lien entre vous et les étudiants, j'imagine que c'est des structures comme Pépite qui vont faire cet accompagnement, qui vont peut-être orienter des étudiants et des étudiantes vers vous, des doctorants et des doctorantes vers vous. Comment ça se passe ? Est-ce que la BPI fait, est-ce que chez BPI, vous faites aussi des actions directes avec les étudiantes et les étudiants ?
Alors nous, on aura une action à la limite de sensibilisation comme on a pu le faire aujourd'hui. Après, le cœur de notre savoir-faire, le cœur de notre métier, c'est d'opérer des financements, en tout cas en innovation et dans ce que nous, on déploie sur le plan Deep Tech. Donc là, on s'intéressera, nous, que à des entreprises qui sont créées, tout juste créées. Vous sortez du tribunal des greffes et vous avez votre cabis et là, on peut vous accompagner, on peut réfléchir ensemble à la stratégie de financement. Par contre, on est quand même présent, en fait, on est présent avec tout l'écosystème justement qui vient accompagner les porteurs de projets. Tout à l'heure, j'ai interrogé Mathias qui était donc un entrepreneur qui lui était un étudiant qui avait son projet pendant toutes ses études et qui l'a maturé, qui l'a construit et qui a fini par monter sa société plusieurs années après. Et Pépite l'a accompagné parce que grâce à Pépite, il a été au statut d'étudiant entrepreneur et c'est comme ça que ça a pu se faire. Aujourd'hui, il a un projet deep tech avec une industrialisation, etc. Donc, c'est fort. Et tout ça, c'est plein d'acteurs en fait qui sont là sur le territoire et qui accompagnent les porteurs de projets. Et après, c'est un petit peu... forcément, on est sur des choses un petit peu personnalisées, un peu à la carte, parce que tous les projets sont différents, toutes les histoires sont différentes. Et donc, du coup, on a plein d'acteurs qui ont des spécificités, des spécialisations et qui vont accompagner les projets comme ça.
J'imagine... Enfin, BPI, c'est une grande machine, j'imagine quand même. Comment on arrive à faire un accompagnement aussi personnel, entre guillemets ?
Alors, je vais parler sur la partie innovation. C'est déjà une grande machine et en plus, on a encore plein d'autres métiers. Et donc, c'est vrai. Notre force, c'est qu'on est sur le terrain. On est nombreux. On est une centaine au moins à Marseille, pour vous donner un exemple. Et en fait, on est plein de chargés d'affaires et on suit notre portefeuille de porteurs de projets, de sociétés. Et on est là au quotidien pour les accompagner. Donc, vraiment, la force, c'est le suivi au quotidien. D'accompagnement. Donc on est là pour eux, on leur répond au mail, au téléphone et c'est ça qui permet, en fait, c'est ce fonctionnement en fait, finalement d'être un peu un référent pour tout un panel de sociétés qui permet de faire le suivi.
Un conseil que vous donneriez aux doctorants, doctorantes qui n'osent pas encore se lancer ?
Je pourrais pas donner un conseil alors que moi-même je suis pas dans cette situation, je me suis pas lancée donc je vais pas faire peu de langue de bois.
Justement, je vais poser une autre question pour aller dans ce sens-là. Si vous aviez à l'époque, vous étiez encore, peut-être que vous êtes encore étudiante, je n'en ai aucune idée, mais si vous étiez encore étudiante à cette époque-là, vous aimé vous lancer dans un projet entrepreneurial ou pas ?
J'aurais aimé justement qu'on me dise non, peut-être que tu as peur, mais je t'assure qu'il ne faut pas avoir peur parce que tu seras accompagné et qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec parce que cet échec-là t'amènera à tel autre succès. Et je crois que ça, c'est ce qu'on voit nous au quotidien avec les entrepreneurs. C'est ce que j'ai entendu dans toutes les histoires que j'ai pu accompagner pour les témoignages, par exemple, aujourd'hui. Il y a eu des échecs, il y a eu des coups durs, il y a eu des difficultés. Et en fait, ça ne les a pas arrêtés. Et au contraire, aujourd'hui, ça a permis quand même de développer leur projet. Alors j'entends quand même que je pense qu'ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont têtus. Ils sont dynamiques quand même. Ils ils vont voir les gens, ils communiquent, ils parlent. Donc je pense que je retiens quand même des qualités chez eux qui leur permet d'en être là aujourd'hui. Mais j'aimerais vraiment qu'on me dise, n'aie pas peur, parce que cette peur-là, en fait, c'est pas la bonne peur. Il faut pas avoir peur d'échouer ou de pas y arriver, parce que justement, c'est pas elle qui va être bénéfique.
Bah écoutez, Elisabeth, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est moi, merci de m'avoir invité. Première expérience réussie à la radio.
Super, première expérience radio, je valide à 100%. À très bientôt, peut-être sur les ondes de Grenouille. On vous retrouve aussi
sur cet événement.
C'est avec plaisir. Et on va se faire une petite pause musicale avant notre dernière invitée. Et on clôturera ce plateau. Merci encore.
Merci.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Merci beaucoup Alexandre, je n'ai pas précisé au début de cette émission, cette émission du coup est réalisée par Alexandre et Renaud qui nous ont installé un magnifique plateau, merci beaucoup, en temps record, merci beaucoup, et nous entamons la dernière partie de ce plateau, de ce moment d'une heure et quart ici à l'Espace Bargemont avec Bénédicte Aldebert, bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter pour ne pas dire de bêtises sur qui vous êtes et la raison de votre présence ici aujourd'hui.
D'accord, merci beaucoup. Alors moi je suis professeure des universités en sciences de gestion à la faculté d'économie et de gestion à Aix-Marseille Université. Donc je suis locale et je suis également cofondatrice d'une société qui s'appelle Glokis, qui met en place des filières de recyclage des filets de pêche.
Alors juste avant, nous étions avec, je vais retrouver ma fiche, nous étions avec Caroline Dumont et nous avons longtemps parlé de la question de la présence des femmes dans le milieu entrepreneurial, qui se fait quand même compliqué, de par une image de l'entrepreneuriat plutôt patriarcal et masculin. Comment vous, en tant que déjà chercheuse et en tant qu'entrepreneuse, vous avez dû lutter contre ça pendant... Peut-être pas lutter forcément, mais faire face à ça pendant des années. Votre tête me dit plutôt oui, j'ai lutté, mais...
Alors, pas forcément, et je vais peut-être avoir un discours à contre-courant de ce que l'on entend, comme quoi c'est difficile. Je pense que c'est difficile pour tout le monde d'entreprendre, que l'on soit un homme ou une femme. Je pense que la clé du succès, c'est de savoir s'entourer. Vous avez dû déjà l'entendre dans toutes vos interviews. C'est savoir s'entourer, c'est faire corps avec son équipe. Moi, ça a été ma chance. J'ai cofondé la société avec mon mari et nous avons été rejointes par une associée qui s'appelle Sabine Meneux. Donc, on a fait une équipe mixte et pour moi, ça a été ça le succès. Être une femme en entrepreneuriat, vraiment, ça n'a pas été ni une opportunité, ça aurait pu, ni une contrainte. C'est juste un fait. Et du coup, il faut faire avec cette force.
La raison de votre présence aujourd'hui, vous l'estimez comment ?
Alors bah, du coup moi j'ai animé une table ronde tout à l'heure sur entreprendre en étant doctorant, donc pour faire le lien, même mes travaux de recherche traitent donc à l'université, je travaille justement sur ce lien de l'entrepreneuriat et de la recherche dans le domaine deep tech, et notamment sur la question de la légitimité entrepreneuriale. Donc sommes-nous légitimes lorsqu'on est une femme pour entreprendre ? Nous sentons-nous légitimes lorsqu'on est une personne de couleur à entreprendre ou un migrant ? Donc ce sont des sujets sur lesquels on travaille. Sommes-nous légitimes lorsque nous avons un handicap visible ou pas visible ? Et souvent la légitimité, enfin pas souvent, la légitimité, elle se voit dans le regard des autres qui nous donne finalement une caution de est-ce qu'on peut faire les choses ou pas. Donc voilà, moi, ma présence ici, c'était de regarder un petit peu l'écosystème, comment il évolue dans le temps aussi, puisque j'assiste chaque année à ces événements, et donc voir un petit peu comment est reçue finalement cette image d'entreprendre quand on est un chercheur, parce qu'il y a des contraintes énormes, il y a des facilités, hein, on a des atouts quand on est un chercheur, on a plein de choses qui nous rapprochent finalement d'entrepreneuriat. On pourrait éventuellement en parler si vous voulez.
Oui, mais... En plus, ça me fait rebondir parce qu'on a reçu Arthur Arzola, oui, qui lui-même est encore actuellement, comme vous l'êtes aussi sur des travaux de recherche, lui en écriture de thèse. Et je lui ai posé cette question de la santé mentale, qui me paraissait importante, de comment on gère cette santé mentale en étant étudiant et entrepreneur ou entrepreneuse à la fois. Et il m'a dit, bah, moi, ça va parce que c'est un moteur. J'imagine que pour beaucoup, ça doit être un moteur, mais là, vous parliez de ces problèmes de légitimité. Quelles sont ces clés, en fait, qui vont nous aider à retrouver cette légitimité si on l'a perdue ou tout simplement la trouver si on ne l'a pas encore trouvée ?
Je pense que il faut accepter l'échec. Il faut accepter le processus de recherche comme le processus d'entrepreneuriat. C'est un processus qui est fait de un pas en avant, trois pas en arrière. On teste des choses, on est dans un monde d'incertitude et il faut que l'on arrive à créer quelque chose de nouveau finalement dans un monde incertain. Donc on fait du test and learn en permanence, on fait de l'expérience. Il faut être, on en parlait dans la table ronde tout à l'heure, très résilient aussi bien quand on est chercheur qu'entrepreneur pour avancer et ne pas s'arrêter à l'échec. Mais l'échec est indispensable pour acquérir sa légitimité. Me semble-t-il, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'un échec, c'est un apprentissage et que quand on passe outre ça, eh ben, on se renforce finalement notre confiance en nous en disant, bon, ben voilà, on arrive à faire des choses qui réussissent aussi. C'est le mariage vraiment échec et succès.
Deux dernières questions et après, je vous laisserai tranquille parce que je vous sais occupé. La première, c'est comment on peut venir vers vous et travailler sur ces questions de clé de légitimité. Est-ce qu'il y a un moyen de rentrer en contact avec vous, de suivre une formation peut-être, j'imagine. Comment ça se passe?
Alors, j'ai créé avec d'autres enseignants-chercheurs de l'université une chaire à Aix-Marseille Université qui s'appelle la chaire Légitimité Entrepreneuriale. Donc, vous pouvez nous trouver très facilement sur le site de Aix-Marseille Université. Donc, vous pouvez nous contacter et voilà, on répondra à vos questions en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours entrepreneurial ou de chercheur pour vous poser ces questions de légitimité. Et on a effectivement des formations avec Pépite Provence. On anime des formations sur la légitimité pour arriver à se créer ces clés de succès.
Et ma dernière question, et là je vous laisserai vraiment tranquille et je vous remercie encore une fois pour votre présence sur ce plateau, un conseil que soit vous auriez aimé recevoir au moment où vous vous lancez dans votre aventure entrepreneuriale, ou un conseil que vous donneriez maintenant avec tout ce recul dans votre aventure entrepreneuriale?
Je pense que ça va être quelque chose d'assez bateau, mais en tous les cas, moi je pense que c'est ce qui nous sauve et nous a sauvés, c'est l'équipe. C'est vraiment quelque chose de bateau, savoir s'entourer. Et souvent quand on démarre, on est doctorant, on est entrepreneur, on est un peu timide, on n'ose pas. Alors certains au contraire, c'est tout le contraire, hein, ils osent, mais souvent on est quand même un petit peu frileux d'aller à la rencontre de gens qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas confiance, on se sent justement, on a ce syndrome de l'imposteur, d'être là où on ne devrait pas forcément être ou se sentir. Mais ouais, pour moi la clé, et c'est vrai qu'on le répète systématiquement, c'est choisir son entourage, s'entourer. Et je rajouterai un deuxième conseil quand même, à part ce côté réseau, c'est garder un équilibre vie privée, vie professionnelle. On l'oublie trop quand on se met dans la recherche. On a la tête dans le guidon, on ne pense plus qu'à ça parce que on n'a pas des horaires, même si on est fonctionnaire, je suis fonctionnaire, mais on n'a pas des horaires de fonctionnaire. C'est-à-dire qu'on peut bosser sur un papier à 21h le soir, les week-ends, parce qu'on est à fond, on a une idée, on a envie de la torturer. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Et donc, je pense que ce qui peut nous perdre, c'est à un moment donné de perdre sa vie privée aussi. Et ça fait partie du succès.
Ben merci beaucoup pour ce témoignage. On se quitte sur ces paroles, c'est magnifique. Ça va me permettre d'amener gentiment la conclusion de cette émission. Je tiens à remercier grandement l'équipe de Pépite qui nous a beaucoup aidé à la mise en place de ce plateau. Je tiens aussi à remercier notre équipe technique qui nous a accompagnés pendant un peu plus d'une heure et quart. Et je vous proposerai de retrouver cette émission sur toutes vos plateformes de streaming favorites très bientôt. Et encore merci à vous, auditeuristes, d'avoir été à l'écoute pendant plus d'une heure et quart. À très bientôt sur les ondes du 88.8. Woo!